Valar Morghulis.
Yes, all men must die, but we are not men.
George R.R. Martin a dit « Le Moyen-Âge n'était pas une époque où l'égalité sexuelle régnait. »
The Iron Throne is mine and I will take it.
Do not call me m'lady.
You know nothing, Jon Snow.
Mister!
Winter is coming.
Stupid little girls. Stupid dreams who never learn.
I was his whore.
Elle s'appelle Daenerys, Cersei, Arya, Sansa, Brienne et ont pour point commun, pour l'instant, d'avoir survécu à l'éventail varié de toutes les tortures qui peuvent être infligées aux femmes. Dans cet univers sacrément moyenâgeux, il ne fait pas bon être une femme et pourtant, qu'elle soit ambitieuse sans morale, chevaleresque, tueuse déterminée, romantique émancipée ou passée de victime à meneuse, celle de Game of Thrones domine le jeu. Si derrière chaque grand homme se cache une femme, dans Game of Thrones, derrière chaque grande femme s'en cache une autre, prête à la surpasser.
I remember the first time I saw you in the throne room. I'd never seen anyone who looked so unhappy. I want very much for you to be happy, Sansa, and so does my grandmother. But women in our position must make the best of our circumstances.
How do I make the best of my circumstances? I have to marry him.
Charlotte Bloom, les femmes sont-elles les vraies, voire les seules héroïnes de Game of Thrones ?
Bah, c'est vrai que quand on regarde la série, plus ça va, plus les hommes, on s'en fout un peu, et plus les femmes prennent du grade, ils prennent de la force. Après, si on revient un peu aux origines de la série, tous les hommes nous ont été présentés comme des gens courageux, des soldats, des combattants, des guerriers, et la plupart des femmes étaient quand même des victimes, des femmes abusées, des femmes mariées de force.
I would let his whole tribe fuck you. All 40,000 men and their horses too, if that's what it took.
Donc, heureusement qu'il y a eu un rapport d'équilibre qui a changé. Ce qui me gêne un peu, en fait, c'est que oui, c'est les héroïnes, mais par quoi elles ont dû passer pour qu'on les autorise à être fortes? C'est-à-dire que ce cliché scénaristique de Nietzsche, quoi, hein, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est très énervant. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on pourrait pas être forte tout de suite? Alors, la femme respectée dès le début, pour moi, c'est Brienne. Donc, la femme chevalier, la seule chevalier du royaume. Et la deuxième femme qui va être respectée sans trop passer par tout ça, mais en y passant quand même un peu, c'est Arya. Et Arya, c'est la petite sœur qui va se faire passer pour un garçon pour essayer de s'en sortir. Et ça rajoute un truc un peu terrible, c'est que en fait, pour s'en sortir dans ce monde, eh ben, il faut ressembler à un mec.
You must listen to me, boy.
I'm a girl.
Boy, girl. You are a sword. That is all.
Game of Thrones, c'est quand même une histoire et un milieu où on punit la beauté, où on punit la féminité, et qu'à moins de se faire couper les cheveux et de se battre, on est en grand danger. Et c'est vrai qu'on aimerait bien une représentation un peu plus équilibrée et ne pas avoir à choisir entre être la belle agressée, violée, ou la femme masculine respectée. Mais en tout cas, il y a des progrès dans la représentation de la femme dans Game of Thrones.
Dovahkiinis.
Et l'émancipation de certains personnages féminins.
Oui, la libération, l'émancipation. On a des espèces de scènes de renversement. Je pense à Daenerys qui montre qu'elle parle une langue pour laquelle on pensait qu'elle avait besoin d'une interprète. Des scènes où on la voit avec ses dragons. Des prises de pouvoir, des phrases difficiles. Même la façon dont se tiennent les actrices change. On se tient droit maintenant dans Game of Thrones. Cersei, Daenerys, même Emilia Clarke dit qu'elle le regrette parce qu'elle a mal au dos et que c'est saoulant et qu'il faut qu'elle se tienne droite comme un piquet. Mais les femmes commencent vraiment à avoir la tête haute.
Marianne Chaillant.
C'est vrai aussi que les personnages féminins, qui sont des survivantes, revêtent des stéréotypes de genre. À ce titre, je comprendrais le reproche qu'on pourrait faire à la série. Et en même temps, on voit qu'au début, c'était la guerre des cinq rois. Quand le roi meurt, le roi Robert Baratheon, une guerre s'initie entre cinq prétendants. Sur les cinq, il y a cinq hommes, me semble-t-il. Maintenant, il y a quasiment que des femmes. C'est une série, j'ai l'impression, qui promeut aujourd'hui énormément la place des femmes.
moi, je ne peux que célébrer le fait qu'à la fin, les seuls personnages qu'on voit, finalement, c'est Daenerys, Arya, Sansa et Cersei, c'est les femmes. Mais on ne peut pas oublier ce qu'elles ont subi, en fait.
Take off your clothes.
Oh, no, no, no. You stay here, Rick. You watch.
Marie Turcan, vous êtes journaliste, rédactrice en chef de Numérama et membre de l'ACS. George R.R. Martin dit « Je suis fondamentalement féministe ». La série l'est-elle?
Ça dit, c'est la grosse question pour commencer.
Tout de suite.
Est-ce que George Martin est féministe déjà? C'est une bonne question parce que vu que ses livres ont beaucoup évolué, je suis pas persuadée. En tout cas, il a évolué dans ce sens-là dans l'écriture de ses bouquins, tout comme la série qui a beaucoup évolué dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui elle est féministe? Je suis pas sûre. Pour autant, elle a marqué une énorme évolution et je trouve que c'est une excellente manière d'analyser l'évolution de la société vis-à-vis du féminisme à travers la série, parce qu'en fait, entre 2011 et aujourd'hui 2019, il y a eu tellement de bouleversements que Game of Thrones vraiment incarne ce changement qui est vraiment un changement de paradigme.
L'avantage, c'est que maintenant, on a 7 saisons pour regarder ça et prendre cet avis-là de « je suis fondamentalement féministe ». C'est vrai qu'à la saison 1, c'était pas évident.
Perrine Kenson.
Parce que clairement, les personnages féminins rentraient dans des formes de stéréotypes, quand même. Bon, elles étaient princesses, enfin, plus ou moins reines. Pas vraiment de métier, pas vraiment de statut. Elles étaient un petit peu rentrées dans la figure de la maman et de la putain, cette fameuse dichotomie chez la femme dans les représentations cinéma, sérielles. Mais il fallait laisser un petit peu le temps au temps. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt intéressant, en fait, finalement, d'aller démarrer une série sur des stéréotypes. Pour finalement voir qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans Game of Thrones, en fait. C'est les parcours des personnages féminins. Ce qui nous intéresse, c'est le parcours de Daenerys. Ce qui nous intéresse, c'est le parcours de Cersei. Ce qui nous intéresse, c'est le parcours d'Arya. C'est le parcours de Sansa. Et surtout, les personnages féminins vont pour reprendre le dessus, en fait. Et ces personnages masculins vont devenir les accessoires de la réussite féminine, en fait. Alors, je sais pas si, George R.R. Martin est vraiment un féministe. Mais en tout cas, il a réussi à faire des femmes fortes qui vont s'émanciper, des femmes qui vont reprendre le pouvoir. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fascinant.
Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground.
It's a beautiful dream. Stopping the wheel. You're not the first person who's ever dreamt it.
I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel.
Ce qui est paradoxal avec Daenerys, c'est que on la montre donc comme cette ancienne esclave qui s'émancipe,
Marie Turcan.
Mais ça reste la mère des dragons. Donc dans la maman, la putain et la sorcière, littéralement, elle rentre dans la catégorie la maman qui a des dragons, qui se sent heurtée dans son âme quand on fait mal à ses dragons, qui ne vainc à la base que par ses dragons, mais en fait non, parce qu'elle est quand même invincible, elle a quand même des pouvoirs de résistance au feu, de choses comme ça. Elle a une espèce de force, mais c'est la reine d'Angleterre, quoi. Enfin, pour moi, elle est adorée par tout le monde, mais elle surplombe tout. Elle a tellement de caractéristiques de pour le coup la femme forte, badass, mais en même temps de ce côté séductrice qui a réussi, que là elle englobe un peu tout le côté fantasme, et en plus elle réussit à être une maman, donc c'est ça qui est fou. Ils ont réussi un petit paradoxe un peu qui me laisse dubitative.
Where are my dragons?
Finalement, on peut le prendre dans l'autre sens et se dire c'est de l'empowerment qu'on n'avait jamais vu avant, la mère peut réussir, elle n'est pas cantonnée à juste nourrir les guerriers qui vont aussi se battre pour elle. Pour le coup, elle est sur le front et ça se voit.
Elle aussi, elle va retourner sa situation de départ totalement, en fait.
Perrine Kenson.
Mais même quelqu'un comme Cersei, en fait. Moi, j'ai du mal à la qualifier de méchante, Cersei.
C'est l'ambitieuse sans morale.
C'est ça, c'est une ambitieuse. Au début, on va se dire, c'est la femme qui a une sexualité pas dévergondée, hein, d'une certaine façon. Elle couche avec son frère, quand même. Et elle est assoiffée de pouvoir, c'est vrai. Elle a une énorme ambition. C'est un personnage qui est très intéressé par ses enfants, qui est très protecteur, qui est très sur lui-même, qui se défend, en fait. C'est un vrai personnage qui est tout le temps attaqué par son père, par son frère, Marie, son autre frère, les autres royaumes. C'est un personnage qui est en permanence attaqué et qui ne fait que se défendre. Et qui est un peu blessé. Donc un personnage blessé est forcément agressif.
Knowledge is power.
Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power.
Cersei, elle est la fille de Tywin. Elle incarne dans la série un philosophe qui s'appelle Machiavel.
Marianne Chaillant.
Et donc, soit on lit Machiavel, soit on regarde Game of Thrones et on apprend un peu de philosophie de Machiavel. C'est quelqu'un qui sait qu'il vaut mieux être avare que généreux quand on est roi. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut faire le bien quand on peut. Malheureusement, c'est pas souvent. Et du coup, il faut savoir entrer dans le mal quand il faut. Cersei sait entrer dans le mal. Elle sait que la fin justifie les moyens et que quand on joue au jeu des trônes, il n'y a pas de moyen terme. Soit on gagne, soit on meurt. Elle a retenu cette leçon de Machiavel et elle l'applique à Westeros.
Shame. 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 Shame.
Marie Turcan.
C'est justement la figure de la mère un peu plus stéréotypée, qui a toujours couvé ses enfants et qui dit qu'elle est prête à tout. C'est comme les gens dans Secret Story qui disent « Moi, je suis pas là, je fais ça pour mes enfants avant tout, je suis là, je fais ça pour qu'ils soient fiers de moi. » Et en fait, Cersei, c'est un peu ça. Elle fait n'importe quoi. Elle dit que c'est pour ses enfants. Bon, c'est quand même vachement pour avoir le pouvoir. Donc Cersei est complètement dans ce rôle de la méchante qu'on adore détester. Et en même temps, il y a cette scène incroyable dans la saison 5, je crois, de marche de la honte, 7 minutes, Cersei complètement nue, qui marche à travers la foule, qui lui crache dessus, qui est vraiment de la haine pure. Et ça, c'était d'une violence. On ne sait pas ce qu'ils ont voulu montrer à travers cette scène. Est-ce qu'ils ont voulu la rendre aimable, mais en même temps, est-ce qu'il faut vraiment mettre une femme dans une situation de telle violence pour la rendre aimable, ou en tout cas créer de l'affection envers elle? Est-ce que c'était pour un truc de jubilation, pour choquer? Parce qu'il faut rappeler que la série, c'est quand même un objet qui se base vraiment sur les retournements de situation et sur le fait de choquer le public. Donc mettre Cersei dans cette position-là avec, encore une fois, pour le coup, la nudité féminine mise en valeur, mais pas du tout dans quelque chose d'érotique, mais comme une faiblesse, ça a été à la fois un coup de génie et en même temps quelque chose de très facile. C'est aussi parce que c'est une femme que c'est si choquant, parce que c'est une humiliation qui est publique, qu'on ne connaît pas, parce que les humiliations publiques étaient réservées aux hommes jusque-là, dans la série en tout cas, parce qu'elle est soutenue par la masse de gens, ouais. Et donc on a l'impression, on a un sentiment d'impuissance. Ce qui est très intéressant, c'est de déconstruire un petit peu ce personnage de Brienne, parce que Myrion Malle, qui est une bédéiste, dessinatrice, autrice, qui est très pertinente sur ce sujet, a montré comment on admire un peu Brienne parce qu'elle a des caractéristiques dites masculines, c'est-à-dire on la trouve badass parce qu'elle est violente, parce qu'elle sait manier les armes, parce qu'elle a des traits virils, et on peut trouver ça chouette. Moi, je suis très contente que ce personnage existe et que ça déconstruise un peu l'image de la féminité classique, mais on en revient toujours à pour être badass, il faut s'approprier tous les codes masculins. Alors que, en ce moment même, au niveau de là où on est dans la série, c'est Sansa qui est la moins habile à manier des épées et la moins virile, comme on dit en manière stéréotypée, qui émerge. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs définitions de la féminité qui sont en train de naître et de manière d'accéder au pouvoir à travers différents moyens. Et que Brienne n'est pas forcément la plus cool juste parce que elle tranche des têtes avec une épée, quoi.
Elle est quand même un peu cool parce qu'elle tranche des têtes. Elle est quand même un peu cool.
I'm Brienne of Tarth. I was Kingsguard to Renly Baratheon. I was there when he was murdered by a shadow with your face. You murdered him? With blood magic?
I did.
In the name of Renly of House Baratheon, first of his name, rightful king of the Andals and the First Men, lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm, I, Brienne of Tarth, sentence you to die.
À la base, Brienne, c'est une femme qui sait combattre. Elle ne correspond pas encore une fois à des canons de beauté. en tout cas dans la série.
Perrine Kenson.
Donc on lui laisse le droit d'aller se battre. Et en même temps, elle va être victime d'une tentative de viol, elle va être victime de ce dont les femmes sont victimes à travers toute la série. Donc finalement, on lui rappelle tout le temps son statut de femme, et donc elle apprend à se défendre en devenant un homme.
What have you got there? I said.
Turn around and go. Turn around and go.
That's a nice little sword. Worth 100 pigeons, a sword like that.
Nothing's worth anything to dead men.
Come on. Quickly, go, go!
Le personnage d'Aria est très particulier parce que, pour moi, c'est l'héroïne qui a été intouchée, finalement.
Marie Turcan.
Oui, certes, elle a vécu beaucoup de choses tragiques dans les saisons précédentes, mais jamais elle n'a été sexualisée.
Ou attaquée dans son intégrité
physique. Elle n'a jamais été agressée sexuellement ou violée. Je trouve que ce personnage montre bien comment ils ont pas réussi à trouver un équilibre entre la maman, la putain et la sorcière. Et la dernière personne qui rentre dans aucune de ces trois catégories, c'est Aria. Et c'est pour ça que je pense qu'il la voit, eux, comme la grande héroïne de Game of Thrones, parce que tout le monde l'aime. On reste sur ce personnage un petit peu magique, hors du temps, un peu c'est à la fois la fille qu'on aurait aimé avoir, elle a les attributs badass de Brienne, donc c'est forcément une femme forte, parce qu'on ne peut pas être une femme forte si on est en robe et qu'on bat des mains. Donc il y a énormément de paradoxes qui sont mis dans ce personnage-là que moi j'aime beaucoup, mais que je me déteste un peu d'adorer, parce que je trouve que c'est la facilité.
Joffrey. Cersei. Ilyn Payne.
Au début de la série, donc c'est un personnage qui a 8 ans à peu près, donc finalement qui n'est pas genré.
Perrine Kenson.
C'est un petit enfant, un peu casse-cou, qui va assister à un drame qui va complètement changer son destin. Donc la mort de son père, elle va assister à cette décapitation. Et à partir de là, tout va changer pour elle. Elle va passer aussi par une forme de travestissement, puisqu'elle va devoir devenir un petit garçon pour survivre. C'est peut-être là où, encore une fois, il est presque un peu féministe, ce bon George Martin, parce que il explique bien qu'être une femme, c'est quand même pas fastoche tous les jours. Et donc, on a ce personnage-là, qui va s'affranchir de tout, en fait. C'est un personnage qui, pour le coup, j'ai envie de dire, si on devait donner des sexualités au personnage, c'est un personnage complètement asexué, Aria. Elle n'a pas ni de sexualité, ni de genre. C'est un personnage qui n'est quasiment que théorique, qui n'a pas d'arc personnel, si ce n'est de celui de la vengeance.
Votre personnage féminin préféré?
Je pense que c'est Sansa. Parce que je ne pariais pas 2 balles sur Sansa. Et qu'elle m'énervait beaucoup dans les premières saisons, parce que son côté fleur bleue, parce que son côté très terriblement naïf. Et en fait, je suis assez admirative de sa façon de se relever des coups de pelle dont on a parlé, qu'elle subit, et justement de pas être dans la revanche, de pas être dans la vengeance, mais d'être dans la réflexion, d'en tirer le meilleur pour la suite, en fait. C'est un personnage très réfléchi, finalement. Et j'aime beaucoup ça.
La plus grande figure féminine ou féministe de la série?
C'est compliqué. Mmh. Je pense que là, vraiment, ce qui est mis en avant, c'est le personnage de Sansa.
Marie Turcan.
Qui est, pour moi, le personnage féministe par excellence, parce que, justement, elle ne fait pas de concessions et il faut l'apprécier pour ce qu'elle est. Et on va pas la changer pour ça. Jean-Sophie Turner, dans la saison 5, pendant les interviews, je me souviens, avait dit, vous allez voir, Sansa va, vous allez aimer Sansa. Et c'était à une époque où personne n'aimait Sansa, mais alors vraiment pas. Et en fait, elle avait raison, et elle a toujours dit qu'elle a joué le jeu du trône dès le départ, mais que ça ne s'est pas vu. On dirait J.K. Rowling qui dit « mais Dumbledore était super gay, mais vous l'avez pas vu parce que je l'ai pas écrit ». Mais là, c'est quand même un peu ça. Genre, oui, on l'a pas vu, mais c'est aussi parce que ton personnage était hyper sous-écrit, et que clairement, il a pris du pouvoir au fur et à mesure des saisons. Mais pour moi, elle me fait penser à cette série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, qui est portée par une féministe, Rachel Bloom, qui met en avant le côté être une femme forte, ça peut être aussi être une femme gentille, qui a des failles, qui peut être obsédée par quelqu'un, qui ne se bat pas, qui n'est pas violente, qui n'est pas méchante, qui n'a pas aucun attribut de la virilité masculine stéréotypée. Et c'est en ça que ce personnage-là, pour moi, réussit à se différencier des autres. Down from Mr. Woman, all the winds and the steps and the carving. He rode to a woman's side, for she was a secret treasure. She was his shame and his bliss.
And a chain and a keep are nothing compared to a woman's kiss. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm. For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm.